C'est la conséquence de cette lettre des 138 personnalités musulmanes qui avait été adressée l'an passé aux chefs religieux chrétiens, en particulier au pape. Donc c'est un rendez-vous qui était prévu, mais ce qui est important, c'est d'abord il permet de relire un peu l'islam à travers deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors ça, je crois que c'est une chose qui est assez inédite en ce sens-là. Maintenant, il ne faut pas faire de cette lettre, de ce forum catholico-musulman, quelque chose d'extraordinaire, comme si on commençait à dialoguer à partir de cette lettre des 138. Non, nous dialoguons avec l'islam depuis plus de 1400 ans. Nous avons, depuis le Concile, le document Nostra Aetate qui a tracé une route plus précise encore pour le dialogue. Donc je dirais que c'est un nouveau chapitre dans une longue histoire.
Comment et par qui les thèmes de réflexion ont-ils été choisis et quelle procédure allez-vous suivre pour les aborder ?
Alors, les thèmes ont été choisis lors d'une rencontre que nous avons eue au mois de mars du dernier avec une délégation des 138 qui sont venus ici. Ensemble, les deux délégations ont choisi ces thèmes. La procédure que nous allons suivre pour les aborder, eh bien, c'est la procédure normale, c'est-à-dire les catholiques exposant leur point de vue, les musulmans exposant le leur, et ensuite il y aura un dialogue. On a laissé d'ailleurs beaucoup de temps au dialogue, de manière à ce qu'on puisse disons, se connaître, bien s'expliquer. Je crois qu'on aura tout le temps, dans les deux journées qui sont prévues, d'approfondir les thèmes qui sont soumis à notre réflexion. Comme forme de conclusion, eh bien, on prévoit un communiqué final conjoint.
Le dialogue entre chrétiens et musulmans, vous le disiez tout à l'heure, a été engagé il y a des décennies. Alors, sur quelles questions porte-t-il habituellement ? Est-ce qu'il s'agit de thèmes éthiques, théologiques et est-ce qu'il a évolué au fil des ans ?
On parle un peu de tout, mais à proprement parler, on ne peut pas dire que nous avons un dialogue théologique, par exemple. Le dialogue théologique est sous-jacent, mais il n'est pas techniquement défini et réalisé. Par contre, au niveau des questions éthiques, au niveau spirituel, lorsqu'il y a des actions conjointes à l'occasion des grandes catastrophes humanitaires, il y a une coopération. Moi, je dirais, pour être réaliste, que la chose qui est importante, c'est que malgré toutes les difficultés, malgré parfois les crises, nous nous parlons, les ponts n'ont pas été rompus, et donc je crois que ça, c'est important.
Oui, justement, alors que répondez-vous à ceux qui estiment que les rapports sont tendus entre catholiques et musulmans ?
Les rapports entre catholiques et musulmans dépendent beaucoup des situations politiques des pays dans lesquels l'islam est religion majoritaire. Je crois que ce qui fait que les rapports sont tendus, c'est que pour le monde musulman, on associe christianisme à Occident. Et alors ça, c'est un amalgame qui est très dangereux parce que lorsque, par exemple, les responsables des sociétés occidentales prennent des options politiques que les musulmans jugent contraires à leurs intérêts, eh bien, ils disent « ce sont les chrétiens qui nous attaquent, ce sont les chrétiens qui nous provoquent ». C'est cela qui rend les rapports tendus.
On le sait, dans certains pays musulmans, les chrétiens connaissent une situation difficile. Leur liberté est limitée quand elle n'est pas niée. Comment le Saint-Siège agit-il et est-ce qu'il compte agir pour améliorer leur sort ?
D'abord, il doit agir pour améliorer leur sort. C'est le devoir du Saint-Siège de défendre les droits fondamentaux des chrétiens lorsqu'ils sont menacés ou niés. Comment le Saint-Siège agit-il ? Bien d'abord, en rappelant à nos interlocuteurs les droits de l'homme fondamentaux. Et puis, il y a évidemment le canal diplomatique. Le Saint-Siège a des relations diplomatiques avec beaucoup de pays arabes. Et c'est un canal privilégié également. Et puis, notre dialogue interreligieux aussi, qui nous permet de faire valoir les droits et les aspirations légitimes de nos frères dans la foi, qui sont objet de persécution et de violence. De toute façon, je crois que, comme je le dis souvent, nous sommes condamnés au dialogue. Alors, il n'y a pas d'autre choix que de cheminer ensemble, sous le regard de Dieu. En route, nous sommes tous en route vers la vérité. Et lorsque nous connaissons ces situations difficiles, eh bien, il ne faut pas avoir peur, justement, de dire ce que nous croyons, celui en qui nous croyons. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer les violations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, les violations des droits de l'homme, de manière à ce que, justement, ce soit la vérité qui prévale et non la force.